Voici le journal présenté par Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Au moins 10 morts et des décombres à la place des maisons dans les villages des montagnes du centre de l'Italie. C'est le nouveau bilan du séisme de magnitude 6,2 qui a frappé le centre du pays ce matin. L'épicentre a été localisé près de Norcia, ville touristique d'Ombrie. Mais les secousses ont été ressenties jusqu'à Rome, à plus de 150 km de là. Et le bilan pourrait s'alourdir, Xavier Sartre.
La terre continue de trembler dans cette région centrale de la péninsule italienne. Les secousses se suivent les unes après les autres depuis 3h37 cette nuit, contribuant à maintenir un climat de peur et de panique parmi la population. Les secours s'activent dans les différentes communes frappées et la protection civile, toujours aux avant-postes, a déjà entrepris son travail d'évaluation pour mieux coordonner l'ensemble des opérations. Plusieurs corps sans vie ont été retirés des décombres dans différentes localités de montagne et le bilan devrait augmenter dans les heures qui viennent. Selon le témoignage du maire Quata del Tronto, qui compte une centaine d'habitants, sa commune serait entièrement détruite. Même image de décombres jonchant les rues à Amatrice, autre commune gravement touchée. Une complication s'annonce, l'hôpital de ce bourg ainsi qu'un autre établissement ont dû être évacués car leur structure a été ébranlée. Les personnels soignants sont donc contraints de soigner les blessés à l'air libre.
Xavier Sartre, le correspondant de France Culture à Rome. L'armée turque et les forces de la coalition internationale anti-djihadiste ont lancé ce matin une opération pour déloger le groupe État islamique de la ville syrienne de Jarablus, frontalière de la Turquie. L'opération intervient alors que le vice-président américain Joe Biden est attendu dans la matinée à Ankara où il doit rencontrer le premier ministre puis le président turc. En France, le gouvernement détaille aujourd'hui les mesures de sécurité qui seront appliquées dès la semaine prochaine de l'école au lycée. Double objectif, s'adapter à la menace terroriste, mais aussi rassurer parents, élèves et enseignants, avec par exemple des exercices attentats intrusion dans les classes ou encore sensibilisation aux gestes qui sauvent des collégiens en classe de 3e. C'est désormais la pierre angulaire du financement du logement social. Le Fonds national des aides à la pierre a été officiellement mis en place hier par la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse. L'objectif, c'est de rendre plus transparent le financement du logement social. Et pour cela, il instaure une cogestion entre l'État, les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux. Ce fonds fixera le montant annuel des aides à la pierre dédiées à la construction du logement social. Il décidera également de la répartition de ces aides en fonction des besoins des territoires. Marion Chantreau.
Ce nouveau fonds est alimenté cette année par 250 millions d'euros de l'État et 270 millions d'euros versés par les organismes HLM. Un cofinancement et une gouvernance partagée des aides à la pierre destinées à construire des logements sociaux pour une politique plus efficace, explique la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse.
Jusque-là, la programmation de logements sociaux, les objectifs, étaient certes discutés en loi de finances, mais derrière ça, c'était quand même le ou la ministre du Logement qui décidait on en produit tant de telles typologies avec des répartitions régionales et c'est après les régions qui déclinaient les choix. Là, on est sur quelque chose de très différent, qui est que, évidemment, le ministère du Logement fera des propositions, mais c'est le FNAP qui les discutera, qui les mettra en œuvre et qui décidera in fine des programmations.
L'objectif est de répartir les aides en fonction des besoins, en tenant compte des particularités locales de la loi SRU et ses quotas de logements sociaux. Emmanuel Couette, président de Rennes Métropole, est le tout nouveau président du FNAP.
On aura à analyser les situations d'une région à l'autre très différentes. Tout cela pour garantir une forme d'équité de traitement. Il y a la notion de zone tendue où il est important de produire de nombreux logements sociaux pour loger les ménages les plus modestes.
Ce fonds donne aussi aux organismes HLM une certaine garantie quant à l'engagement de l'État pour financer le logement social. Sa contribution aux aides à la pierre a diminué ces dernières années. Les bailleurs, eux, investissent davantage. Au sein du FNAP, ils pourront contrôler, faire pression sur le ministère pour qu'il ne revoie pas à la baisse ses engagements, éviter les gels de crédit, les régulations de dernière minute, prévient Frédéric Paul, délégué général de l'Union sociale pour l'habitat.
Il y a le budget tel que les parlementaires le votent, et puis après, il y a l'exécution du budget qui est à la main des services de l'administration. On peut considérer que le FNAP est une manière de surveillance par les acteurs qui sont présents dans son conseil d'administration.
Et si l'enveloppe annuelle n'est pas entièrement dépensée, les crédits resteront dans le FNAP pour les années suivantes.
L'Allemagne va accueillir plusieurs centaines de migrants bloqués sur le sol italien afin de soulager Rome, en première ligne comme Athènes, dans la crise migratoire. L'Italie et la Grèce, point d'engorgement également depuis la fermeture de la route des Balkans. Les deux pays réclament donc le respect des accords de répartition signés en septembre 2015, Timur Özturk.
Selon le gouvernement italien, l'Allemagne s'est dite prête à transférer de nouveaux réfugiés sur son sol. Un accord de répartition des migrants entre membres de l'Union européenne avait bien été signé il y a bientôt un an, mais c'est pour le moment un échec de l'aveu d'Angelino Alfano, le ministre de l'Intérieur transalpin. Il veut croire que la dynamique pourrait être inversée si Berlin montre l'exemple et entraîne d'autres capitales dans son sillage. En Grèce, dans le pays qui dénombre 54 000 migrants toujours bloqués sur son territoire, l'espoir est partagé par le vice-ministre de l'Intérieur, Yanis Mousalas. Ce dernier exhorte la communauté européenne à tenir ses engagements en déclarant « Actuellement, 7 000 personnes sont prêtes à être relocalisées et nous n'avons aucune réponse des États membres qui devraient avoir l'obligation de les accueillir ». Une obligation contestée devant la justice européenne par les États les plus réfractaires à l'accueil des réfugiés, la Slovaquie, et la Hongrie. Le président Viktor Orban souhaite même aller plus loin en consultant ses citoyens par référendum sur le placement de réfugiés en Hongrie. Il fait campagne pour le non. Le plan de relocalisation à l'échelle européenne a donc toujours du plomb dans l'aile, quand bien même l'urgence humanitaire est réelle. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU compte par ailleurs organiser l'hébergement de 20 000 migrants, rien qu'en Grèce, contre 10 000 aujourd'hui. Des capacités d'accueil toujours en deçà des besoins actuels.
C'est un jour historique que célèbre l'Ukraine aujourd'hui. Il y a 25 ans, l'ancienne République soviétique déclarait son indépendance. Un anniversaire qui intervient aujourd'hui dans un contexte très difficile, alors que le pays doit faire face depuis 2 ans à une guerre avec les séparatistes du Donbass, mais aussi peut-être une guerre avec la Russie tout court. La correspondance à Kiev de Stéphane Sioran.
Ce matin, Petro Poroshenko va donner le signal d'ouverture de la célébration des 25 ans d'indépendance de l'Ukraine par un geste symbolique. Le président ukrainien va déposer une gerbe de fleurs au pied de la statue de Taras Shevchenko, ce grand écrivain du 19e siècle, considéré comme le Victor Hugo ukrainien, le père de la nation moderne à l'époque de la domination des tsars. Ensuite, Petro Poroshenko se rendra sur Maïdan, la place de l'indépendance, où il présidera une parade militaire qui promet d'être la plus importante de l'histoire du pays. Depuis plusieurs jours, à Kiev, l'histoire et la guerre s'entremêlent. Tous les soirs, la ville est sillonnée de colonnes de tanks, de véhicules militaires et de canons tractés, comme une façon de rassurer sur la capacité de l'État à défendre une souveraineté que le voisin russe, au cours des siècles, n'a cessé de nier. Depuis que le Kremlin, au cœur du mois d'août, a accusé Kiev d'action terroriste en Crimée, la peur d'une nouvelle invasion militaire russe est revenue. Le scénario est peu probable, même si les risques de tensions dans le Donbass sont très importants. Mais à Kiev, en cette période de célébration, la perception générale est que la guerre à l'Est n'est en aucun cas une guerre civile, mais un nouvel épisode d'une guerre d'indépendance entre l'Ukraine et son grand voisin russe, un voisin qui n'a jamais vraiment accepté sa souveraineté. D'ailleurs, ces derniers jours, le mot qui revient le plus à la bouche des Kieviens, les officiels comme ceux de la rue, c'est celui de liberté.
Stéphane Sion à Kiev pour France Culture. La météo, 14 départements en vigilance orange pour canicule, ceux de l'Île-de-France, mais aussi de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord et de Lyon. Cet après-midi, il fera entre 22 et 31 degrés près du littoral, 30 à 37 dans les terres.